prémédité. Quand je dis que l'asile des Verts a déjà attiré l'attention de la justice, je devrais dire qu'elle vient même tout juste de faire l'objet d'un procès pour un autre drame. Ce drame, c'est l'amputation des pieds de Jean-Baptiste Marie. Jean-Baptiste Marie est un journalier. Il a 25 ans quand il est interné, à la Noël 1870. Le médecin qui prescrit la colocation diagnostique chez lui une folie furieuse. Et le pensionnaire s'avère, de fait, être extrêmement turbulent. Il souffre d'insomnie prononcée et de folie des grandeurs. Il réclame sans cesse de pouvoir parler au roi. Comme son état ne s'arrange pas, il est décidé de le séquestrer, c'est-à-dire de le descendre en cellule, là où le froid et l'humidité frappent encore plus profondément qu'ailleurs. La cellule n'est pas isolée. Aucun feu n'est fait dans la grande salle attenante et les couches sont d'une saleté évidente. Jean-Baptiste est attaché aux chevilles par deux anneaux en cuir dépourvus des coussinets qui devaient les recouvrir à l'origine. Et ses entraves sont reliées à de lourdes chaînes. Plus tard, on les décrira comme de véritables instruments de torture. Dès le 2 janvier, les chevilles de Jean-Baptiste présentent des ecchymoses. Il se plaint. Il se plaint du froid. Rappelons que les faits se déroulent au cœur de l'hiver. Il se plaint aussi de douleur. 2 jours plus tard, ses doigts de pied sont rouges. 4 jours plus tard encore, le registre médical en atteste. La gangrène l'a gagné. Le 15 janvier, le pied menace carrément de se décrocher de la jambe. Mais l'équipe médicale de l'asile se félicite. Le malade présente moins de signes d'aliénation mentale. Il est donc libéré le 17 janvier. Jean-Baptiste Marie est libre. Mais vraiment, ses pieds, ça pas du tout. Il consulte un médecin qui confirme la gangrène, qui estime que le risque de décès est élevé et qui décide de l'amputer des deux pieds. Les proches du patient vont porter plainte au commissariat de police d'Uccle. La gangrène, explique-t-il, fait suite à la congélation des pieds entravés aux chevilles. Le commissaire alerte le procureur du roi, Théodore Eivart, qui charge immédiatement un juge d'instruction d'enquêter sur les faits. On apprend alors que le cas n'est pas unique et qu'un autre pensionnaire, Laurent Théodoras, a aussi perdu ses pieds dans la maison de fous un an plus tôt. Laurent Théodoras est un élégant quadragénaire, fabricant de plumes et de parures, originaire d'Aoste, dans le Piémont. Il est en déplacement à Bruxelles quand il commence à déraisonner. Il est diagnostiqué atteint de manie ambitieuse et sa colocation est imposée en janvier 1870. Arrivé dans un état d'agitation extrême, il est enfermé et menotté aux chevilles, tout comme Jean-Baptiste Marie. Et tout comme chez Jean-Baptiste Marie, les entraves blessent, les plaies s'infectent, le froid mange les chairs et la gangrène débarque. Les pieds de Théodoras, putréfiés, finissent par tomber d'eux-mêmes. L'affaire est étouffée. Un silence facilité par le fait que le malade lui-même ne semble absolument pas conscient de son malheur. À l'heure de l'enquête, il s'étonne simplement que ses pieds n'aient pas encore repoussé et il patiente sagement. Oh, probablement que demain ce sera le cas. Rapidement, 4 membres du personnel sont ciblés par l'enquête. 2 gardiens, le directeur, Henri Van Leeuwen, et le sous-directeur, par ailleurs fils du directeur, Hugo Van Leeuwen. On a déjà dépeint le portrait d'Henri Van Leeuwen et dit combien son profil expliquait en partie l'état délétère dans lequel se trouve l'asile. Délaissé par son directeur donc, l'établissement est en fait administré par ses 2 fils, Hugo et Henri Junior. Henri s'occupe de la gestion administrative, tandis qu'Hugo supervise le personnel et assume la fonction de gardien en chef. C'est lui, Hugo, qui semble être le véritable maître de l'asile, mais qui finalement n'est pas à la hauteur de ses responsabilités importantes. Mou de nature, fuyant résolument le conflit, il sait accueillir les plaintes, mais ne réagit jamais face aux abus dont il a connaissance. Le jeune trentenaire n'est pas parvenu à insuffler à son établissement l'ordre et la discipline qu'il réclamait. Pour cette affaire d'amputation, les quatre inculpés comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 18 avril 1871. Le procès établit les responsabilités respectives, mais tire en longueur. Il est régulièrement ajourné à cause de l'état de santé peu favorable d'Hugo Van Leer. Le jugement n'intervient que le 17 août 1871. Outre de lourdes amendes pour réparation du dommage encouru, dont doivent s'acquitter tous les condamnés, un des gardiens et le gardien en chef, Hugo Van Leer, écope de courtes peines d'emprisonnement. Ce qui veut dire que le fils du directeur est déjà en prison, à la maison d'arrêt de Charleroi, quand éclate le scandale des Verts, le meurtre de deux aliénés par un autre fou, Laurent Dumoulin. Je vous rappelle que le procureur du roi, Théodore Eyvart, a découvert le double homicide suite à une lettre anonyme. Il s'est rendu sur place et est tombé sur Laurent Dumoulin qui, dans sa cellule, lui a lui-même expliqué son crime. Le procureur a alors lancé une enquête et surtout, il a directement averti le ministre de la Justice, Théophile de Lanchir, des violences qui ont régulièrement cours à Hever. Le 25 décembre 1871, ce ministre décide de la fermeture immédiate de l'asile. Le lendemain, le 26 décembre, les 132 indigents qui s'y trouvent colloqués sont répartis dans d'autres maisons de santé. S'ensuit une instruction de 6 semaines, puis un procès. C'est donc un deuxième procès qui s'ouvre contre l'asile des Verts avec le cas de Laurent Dumoulin. Et ce n'est pas Laurent Dumoulin qui est jugé, ben non, lui il est fou, il n'est pas responsable de ses actes. Sur le banc des accusés, on retrouve 9 prévenus, des gardiens, des médecins et les membres de la direction qui sont poursuivis pour le flot de violences qui ont été révélées dans le cadre de l'enquête, mais aussi pour falsification des registres et détournement de fonds. Nous sommes le 11 avril 1872 dans la salle du tribunal de première instance de Bruxelles. Une salle qui craque sous le poids de la foule venue en masse pour assister à cette première audience. La presse aussi s'est précipitée pour relayer au monde le sinistre récit de cette maison de fous. Sur le bureau du juge trônent les pièces à conviction, des registres, un martinet et les entraves qu'on mettait aux pieds des aliénés. Sur les 9 prévenus, il en manque 2. Henri Van Leer, ce pochard de directeur, n'a quand même pas perdu le nord. Quand il a senti le vent tourner, il a vidé les caisses de l'asile et s'est enfui en Angleterre. Le juge d'instruction, Théodore Eyvart, est terriblement amer. Il dit au sujet d'Henri Van Leer, « Abruti par la débauche, il se prélasse à Londres aujourd'hui alors que sa place eût été plutôt dans une de ses cellules où il torturait ses malheureux pensionnaires. » L'autre prévenu absent est un médecin réputé, mais vieillard informe trop souffrant pour assister aux audiences. Un certificat atteste qu'il est atteint de débilité sénile, de paralysie incomplète des membres inférieurs et de douleurs rhumatismales aiguës. Le procès se fera sans lui. Toute l'attention se concentre donc sur deux hommes essentiellement. Hugo Van Leer, le fils du directeur, le gardien en chef, qui a déjà purgé une peine de prison de 2 mois dans le cadre de l'affaire Jean-Baptiste Marie. Le second prévenu vedette est Arnold Sleeks, le gardien qui n'est pas intervenu pendant la rixe entre les 3 aliénés. Les charges à leur encontre sont lourdes. Homicide involontaire par défaut de prévoyance. 42 témoins, aliénés ou proches d'aliénés, défilent à la barre pour décrire les traitements endurés à la maison des Verts. Mais c'est l'arrivée de Jean-Baptiste Marie, le pensionnaire amputé de ses pieds, qui produit la plus vive émotion. De longs chuchotements et une sensation douloureuse se répandent dans l'auditoire. Les avocats de la défense jouent beaucoup sur le manque de fiabilité des témoignages de ces aliénés. Ouais, après tout, pourquoi accorder du crédit aux faits relatés par un fou alors qu'on ne le croit pas quand il affirme être l'empereur des Français ? Les défenseurs d'Hugo Van Leer font des interventions théâtrales. Ils déplorent haut et fort, je cite, « le portrait empreint d'exagération et leur fantasmagorie que l'accusation fait de la Maison des Verts. Ils contestent. Non, c'était pas un lieu de torture, un enfer où se commettaient, dans le mystère le plus profond, les crimes les plus horribles, non. Hugo Vanleu, lui, reste calme. Il est instruit et habile dans sa défense. Le journal La Chronique dit de lui qu'il présente une physionomie assez vulgaire et antipathique, mais intelligente. À côté de lui, le gardien, Arnold Sleix, est d'une toute autre trempe. Vigoureux vieillard de 66 ans, il a les cheveux et les yeux gris, le nez fort, la bouche large et le menton garni d'une fossette. Il a une verrue sur la joue gauche. On ne pourrait faire portrait plus typique du brigand. Il se défend seul, nerveusement, estimant que ceux qui l'accusent le font par vengeance ou par haine, et que des témoins mentent autant que la terre est profonde. Les accusés ont face à eux le procureur Theodor Eivart, profondément préoccupé par le sort des aliénés, on l'a vu. Au cours du procès, il prend le parti de jouer tout à la fois la carte de la dramatisation et celle de la dérision. Doué d'une aisance verbale certaine, comme le sont souvent les procureurs du roi, il use du pathos pour sentimentaliser les débats. Il n'hésite pas non plus à tourner en ridicule ses adversaires dès que l'occasion se présente. Il attaque les avocats de la défense avec un humour incisif. Il déconcerte par l'assurance qu'ont bien des hommes quand ils déroulent leur vision des choses, comme si eux seuls avaient tout lu et tout compris. Le jugement de l'affaire des Verts est prononcé le samedi 11 mai 1872, un mois jour pour jour après l'ouverture du procès. Des 9 inculpés, 2 sont mis hors de cause. Le directeur en fuite est condamné à 2 ans de prison par contumace. Son fils Hugo Vanleu, le sous-directeur effectif, a 1 an d'emprisonnement. Le gardien Arnold Sleix écope de 18 mois de prison. Les autres, gardiennes, gardiens et médecins, s'en sortent avec des peines nettement moins longues. Mais le procès terminé, l'affaire ne s'arrête pas. Elle file à la Chambre des représentants, car, il faut dire, ce scandale a mis en lumière un certain nombre de défaillances dans le système de surveillance instauré par la loi du 18 juin 1850. Il démontre l'inertie des responsables de l'asile, mais aussi la façon dont les autorités chargées de la surveillance des établissements asilaires n'ont pas su éviter le drame, en dépit des nombreux avertissements. Il provoque donc une importante remise en question du cadre législatif. Le moment est propice. Ça fait quelques années déjà que dans le pays, on entend de fréquentes contestations des réclusions abusives et des conditions d'internement des fous. L'affaire des Verts ne fait que précipiter, en somme, la remise à l'agenda politique de la question de la prise en charge des aliénés. Des débats sont ouverts au sein des assemblées législatives. Il concerne la question du travail des fonctionnaires chargés de la surveillance des établissements d'aliénés, le montant trop faible payé par les communes pour la prise en charge de leurs indigents et la nationalisation des établissements d'aliénés. Car, on l'a compris, la maison de fous des Verts appartenait à la famille du directeur. C'était une entreprise privée qui a d'ailleurs fait faillite. Sur ces joutes verbales qui se jouent à la Chambre, le ministre de la Justice, Théophile de Lanchir, lance une vaste enquête au sein de tous les établissements asilaires du royaume pour proposer des idées d'amélioration de la législation. Et le 13 novembre 1872, il dépose un projet de refonte de la loi de 1850. Le projet est approuvé à l'unanimité un mois plus tard et, après un passage au Sénat, la nouvelle loi est promulguée le 23 décembre 1873. 2 ans après le double homicide qui a tout déclenché. Cette loi ne prévoit pas l'étatisation des structures asilaires réclamées par certains, mais énonce tout de même un chapelet de précautions nouvelles pour assurer leur contrôle. En découle aussi un nouveau règlement général et organique qui va concrètement changer le régime des aliénés. Le recours aux cellules d'isolement est désormais limité. Plus question d'enfermer les pensionnaires si longtemps dans des conditions si atroces. Les médecins doivent faire des rapports réguliers. Les directeurs doivent immédiatement rendre compte aux autorités de contrôle, non seulement des décès, mais aussi de tout accident ou de blessure grave. assez sûr en avance. La prise en charge des fous s'humanise. Et bien dans le même temps, sachez qu'Henri Van Leu a été rattrapé par la justice. Un traité d'extradition avait été conclu avec l'Angleterre contre le directeur de l'asile des Verts. Le voilà donc acculé à purger sa peine en décembre 1873. Mais la sanction sera de courte durée. Henri Van Leu décède, 2 mois plus tard, dans l'infirmerie de la prison de Louvain. Pour cette affaire, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à Céline Raz, un récit largement inspiré de l'ouvrage de Gauthier Godard, L'Asile en procès, disponible aux presses universitaires de Louvain.